Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Programme riche, programme varié ce soir encore. Il voulait interdire les locations de type Airbnb dans sa ville de Nice pour freiner, disait-il, l'épidémie de coronavirus. Mais la justice administrative vient de lui dire non. Christian Estrosi, le maire de Nice, donc, sera avec nous tout à l'heure à 18h15. Et puis à 18h35, juste après Natacha Polony, c'est une voix. Et quelle voix qui sera en direct avec nous? Celle de Madame Nicoletta. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Autre voix remarquable avec vous. Oh bah ça c'était pour au moment de Louis Baudin. On voulait mettre Il est mort le soleil. Mais d'abord on va regarder les titres avec vous, Natacha. Amandine.
Oula,
ça part fort.
Bon, et revoilà le débat autour de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées. Figurez-vous que le principal syndicat de médecins scolaires le réclame ce soir et ce pour 4 semaines. Vous les entendrez. Dans ce journal également, le parquet de Versailles qui ouvre une enquête après des menaces sur un enseignant. Et puis rien ne va plus pour les Français à l'Open de tennis d'Australie après les larmes de Gaël Monfils. Grosse colère de Benoît Paire, on en a l'habitude, mais là, c'est encore monté d'un cran.
Cette fois-ci, on y va. L'effet de surprise est un peu amoindri, mais c'est quand même pour annoncer Louis Baudin et la météo. Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Demain,
Thomas.
Du froid et de la neige.
Et de la neige, exactement. Hein, le froid hivernal qui s'est installé, qui va se confirmer pour les prochaines heures. Cette nuit, les températures vont descendre jusqu'à moins 6, moins 7, voire moins 8 degrés au nord de la Seine. Toute la moitié nord sera donc sous des gelées dès la soirée. Et puis demain, avec cette température négative, eh bien, on va ajouter de l'humidité. Donc écoutez bien, l'épisode de neige va commencer demain matin sur la Bretagne. Bretagne qui sera entièrement recouverte de neige en fin de journée, entre 5 et 10 cm, jusqu'à 15 cm. Un épisode peut-être qu'on n'a pas vu depuis 1986. Donc vraiment beaucoup de neige sur la Bretagne. Ensuite, ça va se décaler vers la Normandie en cours d'après-midi, le Val-de-Loire. L'Île-de-France, ça sera pour la soirée et la nuit suivante. Peut-être là aussi quelques centimètres, Bourgogne. Et ça finira par les régions de l'Est. Pendant ce temps-là, beaucoup de pluie également dans le sud, mais ce sera bien de la pluie en plaine et beaucoup de neige également en montagne. Ça arrivera sur les régions de l'Est en fin de journée. Et puis après, les fortes gelées matinales, ça ne dégèlera pas dans la moitié nord l'après-midi et on aura encore 10 à 16 degrés dans la moitié sud.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et pour réchauffer les cœurs, justement, un grand coup de chapeau à un petit bonhomme. C'est le héros du jour. Il s'appelle Théo et a tout juste 5 ans. Ce petit garçon qui vit près de Saint-Étienne a sauvé la vie de sa petite sœur. C'était la semaine dernière, Frédéric Perruche.
Oui, mercredi dernier, à l'heure du goûter, Alicia, 3 ans, s'écroule dans le salon sous les yeux de son frère aîné, Théo. La fillette fait une crise d'épilepsie et elle s'étouffe avec un gros morceau de gâteau au chocolat.
Maman, viens vite. Il y a Alicia qui ne bouge plus.
Mais avant d'appeler sa maman à l'étage, Théo a d'abord l'incroyable réflexe d'enlever le gâteau de la bouche de sa sœur, comme il nous le raconte avec ces mots.
Moi, j'ai sauvé la vie à ma petite sœur. J'ai appelé maman pour dire qu'Alicia n'était pas terre, qu'il fermait ses yeux et qu'il ne bougeait plus. Et après, j'ai enlevé le morceau de gâteau.
Grâce à Théo, Alicia va bien et toute la famille dit un immense merci au petit héros.
La maman, elle est très fière. La maman, le papa, les grands-parents, tout le monde sont extrêmement fiers de Théo. Il a eu le bon réflexe et on pourra jamais assez le remercier pour ça, quoi. Nous, c'est notre héros. Et à l'hôpital, ils ont dit, mais Alicia, si elle est encore là, c'est vraiment, vraiment grâce à son grand frère et au geste qu'il a eu, oui.
Et en guise de récompense, Théo pourra bientôt visiter la caserne des pompiers qui sont intervenus et pourquoi pas monter dans un de leurs magnifiques camions rouges. Il l'a bien mérité.
Ah oui,
il faut qu'il monte. Merci aussi à Frédéric Perruche, donc près de Saint-Étienne, à Saint-Éan. Pour RTL.
Sur le front du Covid, le principal syndicat de médecins scolaires réclame ce soir la fermeture de toutes les écoles.
Des écoles, mais aussi des collèges et des lycées, et ce, pour 4 semaines. Écoutez Claudine Nemoza, elle est secrétaire générale adjointe du syndicat national des médecins scolaires et universitaires, UNSA Éducation.
Juste après les vacances de Noël, il y avait peu de cas. Et là, depuis le début du mois de février, on a vraiment une augmentation très, très sensible du nombre de cas signalés. Nous pensons que nous allons devoir gérer une cascade de fermetures. Et franchement, les médecins, on a déjà beaucoup, beaucoup de travail avec ce qui se passe actuellement. Donc si en plus, avec le nouveau protocole, on doit fermer des classes sans arrêt, on ne voit pas l'intérêt de laisser les écoles ouvertes s'il y a la moitié des classes qui sont fermées.
Des propos recueillis pour RTL par Marie Guerrier. Les établissements scolaires, hein, qui, et cette dame l'évoquait, font depuis ce matin l'objet d'un nouveau protocole. Désormais, dès lors qu'un cas de variant est détecté, c'est toute la classe qui ferme. Les parents des enfants concernés sont eux aussi priés de se mettre à l'écart. Ils sont désormais considérés comme cas contact de cas contact.
Donc ça a changé. Hein.
Ça a changé. Mmh. Ça, c'est en cas de variant et uniquement de variant. À Aubonne, dans le Val d'Oise, c'est tout un collège, hein, qui se retrouve ce soir fermé. Plusieurs élèves ont été contrôlés positif au variant sud-africain, Nicolas Burnand.
Oui, au moins 2 cas de ce nouveau variant ont été détectés dans cet établissement alors que 9 classes sont touchées par des cas de coronavirus. Valérian, père de famille, a sa fille dans le collège. Il a reçu ce message de la part de l'académie.
Le collège est fermé cette semaine. Isolez-vous, restez avec vos enfants, évitez les contacts avec les personnes fragiles. Ils sont restés à la maison. Moi, pareil, je n'ai pas travaillé aujourd'hui pour être plus rassuré.
Plusieurs dizaines de collégiens testés positifs sont à l'isolement pour au moins 7 jours. Il a également demandé aux parents de ne pas mettre les frères et sœurs à l'école. Julie Auriel est la représentante de la FCPE.
Mon travail, c'est donc de relayer l'information, de répondre à leurs interrogations. Ma fille est dans une autre école en élémentaire. Est-ce que je dois la faire tester? Est-ce que je dois la mettre? Qui est à l'isolement? Donc en fait, toutes les informations qu'on a sur le variant.
L'objectif est désormais de contenir la propagation de ce virus. L'Agence régionale de santé met donc en place dès demain un dépistage massif en priorité pour les 600 collégiens et leurs familles. Marie-Josée Bolland, la maire d'Aubonne.
On connaît mal sa circulation, sa vitesse de contamination. Donc il s'agissait vraiment de couper les chaînes de transmission, de connaître le plus rapidement possible l'étendue, j'allais dire, de sa présence.
La ville a mis un gymnase à disposition. Les autorités espèrent dépister 1500 personnes avant la fin de la semaine.
Nicolas Burnand, en direct d'Aubonne, dans le Val d'Oise, pour RTL. Le ministre de la Santé, lui, a fait tomber la chemise ce matin.
Vous me dites quand vous piquez ?
Moi, j'y suis déjà.
Ah bon ?
Olivier Véran, qui a reçu une première dose du nouveau vaccin AstraZeneca.
Rien musclé, hein. Il a
rien
biceps,
senti. Il dit,
rien,
hein. Il a un peu, oui.
Il a été formidable.
Bandé le muscle, comme on dit. Le dernier à avoir été homologué, dernier vaccin. Vaccin réservé, on le rappelle, aux moins de 65.
J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner dans leurs hôpitaux, dans les centres de ville, pour pouvoir se protéger au plus vite. Et vous le voyez, bien qu'ayant reçu une injection de vaccin, je porte toujours le masque, je mets du gel hydroalcoolique, je respecte l'ensemble des gestes barrières. Bref, je ne relâche pas la vigilance.
Le ministre de la Santé, plutôt rassurant quant à l'efficacité de ce vaccin, il protège, a-t-il dit, contre 99% des virus qui circulent sur notre territoire. L'Afrique du Sud, elle, a décidé de le suspendre, estimant qu'il n'était pas assez efficace contre le variant sud-africain des vaccins. On en parlera demain soir dans RTL Soir avec le professeur Fischer, c'est le monsieur vaccin du gouvernement qui sera notre invité.
Et puis à Nice, les loueurs de maisons et d'appartements, ce soir le sourire, le tribunal administratif a retoqué aujourd'hui l'arrêté municipal qui interdisait les locations saisonnières. Écoutez le vice-président de l'Union professionnelle de la location touristique.
C'est effectivement une grande victoire pour notre petite association. Concrètement, toutes les demandes qui étaient en attente et suspendues à la décision d'aujourd'hui vont pouvoir se faire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous professionnels. Et pas que, puisque du coup, même les particuliers qui font de la location sans intermédiaire vont pouvoir le faire. Pour mon agence à moi, j'en ai à peu près une petite dizaine qui sont en attente. Et je suis ravi de pouvoir annoncer très rapidement d'ailleurs aux personnes qui voulaient voyager qu'ils pourront bien venir comme convenu. Il faut quand même temporiser, il n'y aura pas d'appel d'air. Parce qu'effectivement, les demandes restent quand même très faibles par rapport aux années précédentes. On va sans doute avoir peut-être plus de touristes qu'on aurait pu l'espérer. Mais en tout cas, ce ne sera pas l'afflux que Christian Estrosi craignait depuis le début.
Des propos recueillis pour RTL par Mickaël Lefebvre. Et on entendra justement dans quelques minutes Christian Estrosi, qui était à l'origine de cet arrêté, le maire de Nice. Elle sera votre invité, Thomas. Ce sera dans une dizaine de minutes.
Mais avant cela, on marque une petite pause et on ira à Trappes où un prof de philo se dit ce soir menacé. Menacé après avoir apporté son soutien à Samuel Paty.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
La suite du journal à 18h et presque 10 minutes avec vous, Amandine Bégaud, et on va donc à Trappes.
Trappes, après ses menaces sur un professeur ayant défendu Samuel Paty, le parquet de Versailles, explique ce soir avoir ouvert une enquête. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
De quoi s'agit-il et surtout quelles sont ces menaces?
Alors ces menaces font suite à plusieurs interventions médiatiques de ce professeur de philosophie après la mort de Samuel Paty, appelant à lutter contre l'islamisme, notamment dans une lettre ouverte publiée par l'Obs début novembre, mais aussi dans un reportage tourné par une reporter néerlandaise. C'est 7 journalistes qui a déclaré avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux après la diffusion de son sujet. Sujet, menace qui visait le professeur. Une enquête a donc été ouverte et l'enseignant entendu. Alors, il n'a rapporté aucune menace dans le cadre de son établissement, c'est important, mais il a fait part de ses craintes. Après évaluation, la police nationale a donc mis en place une surveillance dynamique autour de son domicile et de son lycée. Et l'Académie de Versailles assure qu'elle mettra tout en œuvre pour que l'enseignant puisse continuer à exercer dans son lycée de Trappe où il souhaite poursuivre sa carrière malgré ses critiques récurrentes de la mairie et de l'emprise islamiste sur la ville.
Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Et ce soir, justement, une réaction, celle du maire de Trappe. Il assure que ce professeur n'a jamais fait l'objet de menaces très sérieuses. Écoutez.
Ce professeur dit des choses avec lesquelles je peux être d'accord sur le repli communautaire, sur une forme de radicalisation qui existe et que je combats comme maire tous les jours. Mais il raconte aussi n'importe quoi sur le fait que nos enfants n'ont pas le droit de chanter à l'école. C'est évidemment faux. Sur le fait qu'il n'y a pas de coiffeur mixte à Trappe, il y en a un à 50 mètres de l'établissement où il enseigne. Ça, c'est insupportable et comme maire, au nom des habitants de la ville de Trappe, je n'ai pas à le tolérer.
Ali Rabet, le maire de Trappe au micro RTL d'Alexandre de Saint-Aignan. Et puis, nouvelle expertise dans l'affaire Traoré, la 9e depuis juillet 2016 et la mort du jeune Adama. Les médecins estiment que ce décès est sans doute lié à un coup de chaleur aggravé par les manœuvres d'immobilisation des gendarmes.
On va parler tennis et on va aller du côté de Melbourne. Melbourne, l'Open d'Australie qui déjà ne réussit pas vraiment aux Français.
Eh bien oui, on a eu les larmes ce matin de Gaël Monfils.
Je vais te donner la phrase simple de ma mère, tu vois, elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner. Et ça reviendra. C'est ce truc.
Voilà, les larmes de Gaël Monfils sont très abattues, vous l'avez entendu. Il y a ensuite eu la colère de Benoît Paire. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir.
Le français est un coutumier du fait, mais alors là, il y est allé vraiment fort.
Bah, il est sans filtre, hein, Benoît Paire, battu, mais content, enfin, pas tout à fait.
Je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis très content de mon niveau, très content de ce que j'ai produit. Mais ce tournoi, franchement, je trouve que c'est vraiment de la merde.
Les organisateurs apprécieront, tout comme son ancien équipementier avec lequel il n'a pas re-signé car la marque en question lui demandait de baisser son contrat.
Moi, j'ai pas accepté que ça baisse parce que je sais qu'à côté de ça, ils ont signé pour d'autres personnes assez chères, donc je savais qu'il y avait de l'argent.
Du coup, il s'est acheté sur Internet un lot de t-shirts unis et sans logo.
Tu vois, je peux le déchirer, enfin, j'en ai rien à... pas très grave.
Surtout, il a une idée derrière la tête, lancer sa propre marque avec un logo très personnalisé.
Ce sera un verre de cocktail. J'ai envie de faire quelque chose de décalé, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Je vais essayer de faire quelque chose de très classe parce que moi, je trouve que pour être sur un court de tennis, il faut être assez classe.
Classe, comme les cocktails qu'il se concoctait pour ses apéros virtuels avec son copain, le joueur suisse Stan Wawrinka, lors du premier confinement.
Ah bah au passage, il s'offre un joli coup de pub, au moins on en parle. Hein.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Langer du service des sports de RTL. Vous avez eu froid aujourd'hui, eh bien oui. Sachez-le, ce sera pire demain. Moins 8, c'est bien ça Louis Baudin, attendu demain matin à Lille. Alors j'ai lu jusqu'à moins 15 si on regarde les températures ressenties, c'est vrai aussi?
Et c'est vrai aussi, parce qu'il y aura du vent de nord-est qui va aggraver cette impression.
Bon, le plan grand froid a été activé dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, en Bretagne. C'est la neige, Louis nous le disait, qui inquiète ce soir. Par mesure de précaution, sachez-le, les transports scolaires seront suspendus demain.
Et on fera un point complet avec vous tout à l'heure. Louis Baudin, bon, on va quand même pas s'arrêter là-dessus.
Ben non, il y a la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et Thomas, attention, on peut faire du ski à Courchevel.
Oui, du ski
alpin, malgré l'arrêt des montées et remontées mécaniques. Oui, le ski
ce
comme
qui
ça.
N'a pas, c'est le planter de bâton.
C'est toujours planter de bâton.
Piquer du bâton, extension.
La station a ouvert ce week-end une piste accessible en voiture.
Ah, c'est malin.
2 km balisés, sécurisés, c'est gratuit. Et elle s'offre, elle aussi, tient au passage un joli coup de pub. Deux kilomètres ont l'air descend vite, hein, quand même.
Petite
mais bon.
Musique fait du bien.
Ah, oui, oui.
Neige, hein, du coup. Ouais. Merci Amandine, à tout à l'heure. Il veut, on l'entendait, limiter les touristes. En tout cas, il voulait limiter les touristes dans sa ville pendant les vacances scolaires. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est tout de suite l'invité d'actualité d'RTL Soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h17, il est le maire Les Républicains de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Christian Estrosi.
Bonsoir.
Pas de vacances à Nice, hein. Vous souhaitiez que jusqu'au 20 février, les touristes ne puissent pas louer des locations saisonnières de type Airbnb. Sauf qu'on l'a appris il y a quelques minutes, cet arrêté a été suspendu par le tribunal administratif. Vous dites quoi? Dont acte, c'était une mauvaise idée ou vous allez y retourner?
Non, nous allons tout de suite devant le Conseil d'État. Ce sera traité par le Conseil d'État cette semaine. Donc, une mesure rapide. J'ai toute confiance. Ça fait partie de ces bizarreries Où voyez-vous, lorsque j'ai pris des arrêtés pour imposer le port du masque et 3 millions de masques distribués, lorsque j'ai pris des arrêtés pour le couvre-feu, c'était en avril, en mai dernier, lors du premier confinement, ce même tribunal administratif estimait que j'étais fondé à prendre ces décisions parce que le préfet ne les prenait pas. Et ce soir, le tribunal administratif a décidé d'annuler ma décision.
Il dit, c'est pas à vous de décider, c'est au préfet.
Parce que le préfet ne les prenait pas.
Oui.
Donc, allez comprendre quelque chose. Je sais simplement, et là, je vous le dis avec gravité, que l'ARS, avant d'arriver sur votre plateau, m'a annoncé qu'il y avait ce lundi 22 morts de plus, 20 décès de plus du Covid, que nous sommes à saturation des hospitalisations conventionnelles. De la réanimation, nous avons 96 lits d'occupés et que les magistrats doivent aussi avoir un cas de conscience si, alors que nous avons en moins d'un week-end 15% d'augmentation des décès, ne pas avoir tenu compte de ma décision qui tient compte de l'expérience des vacances du jour de l'an, où avec l'ouverture à l'aéroport international de Nice de 20 vols par jour que nous avions à 120 vols par jour, nous avons vu, alors que nous étions dans une situation de qualité, les chiffres exploser.
Et là, vous nous dites ce soir, les hôpitaux sont saturés dans votre région et dans votre ville ?
Oui.
On en est là déjà ?
Oui, nous sommes à saturation des occupations conventionnelles, en hospitalisation et en réanimation. Et en même temps, le tribunal administratif de Nice se dit, ça n'a pas une grande importance, au fond, que nous limitions ou que nous ne limitions pas, en l'occurrence de ne pas limiter, l'arrivée de visiteurs saisonniers.
Alors, éviter l'arrivée de visiteurs saisonniers, est-ce que c'est votre façon de dire maintenant, il faut s'isoler et, si on va au bout de la logique, il faut reconfiner, Christian Estrosi ?
Je pense que le gouvernement, jusque-là, a pris les bonnes décisions. C'est-à-dire trouver le juste équilibre. Et c'est difficile, c'est courageux d'être sur le fil du rasoir et de jauger au jour le jour à quel moment il faudrait prendre une décision de confiner ou pas. Et tant qu'on permet à l'activité économique de trouver une cohésion à peu près juste et légitime, de le faire. Donc moi, j'approuve ces décisions.
Est-ce que vous dites aujourd'hui, compte tenu de la situation dans ma ville, dans mon département, dans ma région, il faudrait peut-être des mesures de confinement qui soient locales, départementales, régionales ou pas ?
Mais justement, laissons le soin au maire, au président de métropole que je suis, qui a la capacité à évaluer les choses, de pouvoir le faire, par exemple, sur l'arrivée des... Pourquoi aujourd'hui dit-on, allez, pas de vacances à la montagne, pas de ski, mais en même temps, si vous voulez sur le littoral, aller occuper tous les Airbnb à Britel et tout que vous voulez et venir passer des vacances, reconnaissez qu'il y a une certaine incohérence.
Ce qui est un peu paradoxal, c'est que vous voulez fermer les Airbnb, les Airbnb, mais pas les hôtels.
Je pense que le gouvernement peut-être, regardez ce qu'allait décider l'ETA à Nice, et sera inspiré pour prendre une décision au moment où vont commencer les vacances d'hiver, de dire après tout, ce serait une bonne chose dans la France entière de ne pas permettre aux saisonniers d'exercer leur location.
Je vous repose ma question, est-ce que vous souhaitez un confinement local à Nice, que votre population soit confinée ?
Non, je ne le demande pas aujourd'hui, je demande simplement à ce que nous regardions si le couvre-feu des 18h, si les mesures qui sont prises... D'abord, sincèrement, l'association qui a déposé un recours est irresponsable. Alors que les théâtres ne sont pas ouverts, alors que les opéras ne sont pas ouverts, alors que les cinémas ne sont pas ouverts, alors que les restaurants ne sont pas ouverts, dire nous, on pose aucun danger à la société. Il y a un moment où il faut comprendre qu'on ne sortira de la situation dans laquelle nous sommes, à la fois par la réussite d'une campagne de vaccination, et puis par une responsabilité collective. Voilà pourquoi je dis qu'ils sont irresponsables.
Mais alors pourquoi vous ne fermez pas les hôtels également ?
Ce sont des acteurs importants de la commune.
Pourquoi vous
ne fermez
pas les...
Ce sont des acteurs, moi je n'ai rien contre eux, ce sont des acteurs importants de la commune. Mais ils ont tout intérêt à ce que nous sortions le plus rapidement possible de cette situation pour que l'on puisse demain libérer totalement l'économie. Et ils en seront les premiers en bénéficier.
La raison de leur recours, c'est que les locations saisonnières étaient interdites. mais que les hôtels restaient ouverts.
Mais je vous pose une question. Est-ce que le protocole qui est exigé pour les hôtels, qui pour trois quarts d'entre eux sont fermés, est le même que pour celui des locations saisonnières? Est-ce que pour les locations saisonnières, on exige que toutes les heures, on vienne passer des produits virucides sur l'ensemble des instruments de cuisine, de salle à manger, de sanitaire, etc. Je vous pose la question. Bien évidemment, non. Alors que dans l'hôtellerie, il y a un personnel qui est dédié à ça.
Ça, c'est vrai, c'est exact. On entendait à 18h le principal syndicat de médecins scolaires qui demande la fermeture de toutes les écoles pour 4 semaines à partir de ce soir. Est-ce que c'est une mesure à laquelle vous seriez favorable, vous, compte tenu de la situation dans votre ville ?
Mais vous savez, ce qu'il y aurait de pire, c'est que là, ce soir, à RTL, comme ça, je vous dis, je suis plutôt favorable à ça qu'à ça. C'est le gouvernement qui prend des décisions sanitaires.
Oui, mais vous dites qu'il faut écouter les maires. Et vous êtes beaucoup de maires à dire ça. On ne nous écoute pas assez. Vous avez écrit à Jean Castex pour demander une transparence totale.
J'ai des choses à vous dire sur ce que nous devons faire comme pas en avant en matière de décentralisation. Mais en même temps, là, on est dans l'urgence. Et quand une décision est prise, de deux choses l'une, soit on les conteste, on n'est pas content, on se dit « Ah, mais moi, si j'y étais, je ferais autrement, je ferais mieux. » Soit on se dit « Bon, de toute façon, on est engagé dans une bataille qu'il faut gagner. » Donc, à partir du moment où une mesure nationale est prise, la collectivité doit être là pour la rendre la plus efficiente possible. Je prends le cas de la vaccination. Naturellement, on voudrait tous que ça aille plus vite. Naturellement, on voudrait tous que l'Europe ait passé des commandes qui fassent que nous ayons les quantités suffisantes. Mais c'est comme ça. La répartition dans les pays européens a fait que nous avons reçu jusqu'à présent ce qui permettait de faire un pourcentage assez conséquent malgré tout de personnes de plus de 75 ans, de corps médical de plus de 50 ans, de personnes atteintes de comorbidité, et j'ai ouvert pour accompagner le gouvernement sur l'ensemble de la métropole, 49 communes.
Donc vous dites dans la situation d'urgence,
réservation
au mieux en application
dès le mois d'octobre,
au mieux les conseils
dès le mois d'octobre. Et ben ça nous permet aujourd'hui d'avoir au moins 31% des plus de 75 ans qui aujourd'hui soient vaccinés. On souhaiterait accélérer et j'attends les prochains arrivages, mais aujourd'hui soyons complémentaires plutôt que de dire ils ont tort, c'est pas comme ça. Vous savez, gouverner aujourd'hui, il faut du courage. Et je trouve que là où le président de la République a sans doute eu des pressions de la part du Conseil scientifique, que nous connaissons tous en disant pour aller vers le confinement, il faut tout fermer, etc., d'avoir résisté à ça, disant je veux d'abord jauger les mesures que nous avons prises pour voir s'il faut aller plus loin, ou si on arrive à trouver un équilibre économique et social précaire, sachant que les gens souffrent, que nous sommes au bord d'une crise sociale, d'une crise économique, et que là aussi, nous avons des aides économiques de l'État.
Donc vous dites, heureusement en fait, que vous dites, Christian Estrosi, ne mettons pas d'huile sur le feu, faisons au mieux dans une situation compliquée.
C'est ce que je dis.
Comment vous jugez le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a annoncé cet après-midi qu'il allait rouvrir 4 musées municipaux dans sa ville? Est-ce que ça pourrait être le cas à Nice, par exemple, ça?
Non, je ne prendrai pas cette décision, mais par contre, je prends des décisions pour accompagner toute la culture. Moi, je ne veux pas laisser mourir la culture. Les musées, d'ailleurs, n'ont pas vocation à mourir puisqu'ils sont tous municipaux et que c'est nous qui payons les charges de fonctionnement. Mais moi, je pense plutôt à soutenir mes deux petites troupes d'art vivant, engagées dans l'art lyrique, dans le cinéma, les intermittents du spectacle. Et c'est pour cela que nous faisons un programme par anticipation pour cet été où j'associe toutes les associations, ça fait près de 300 associations et les intermittents qui en font partie, pour leur financer tout de suite ce qui s'appellera un été pour Nice, et en même temps déclarer que la culture sera un enseignement pour les 28 000 élèves de la ville à partir de la rentrée de septembre, où les associations seront soutenues financièrement pour enseigner à chaque élève un instrument de musique, monter sur une scène de théâtre, la lecture pour tous, etc., etc.
Christian Estrosi.
Je préfère aider que d'aller dans un affrontement avec les dispositions gouvernementales.
Il nous reste quelques minutes pour parler de l'autre gros sujet d'actualité, c'est la sécurité, c'est le séparatisme. Il paraît que vous êtes remonté contre Gérald Darmanin à cause du Beauvau de la sécurité. Pourquoi ?
Je ne suis pas remonté contre Gérald Darmanin, dont j'estime que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Je dis simplement à Gérald Darmanin, avec lequel nous avons de bonnes relations, que je ne mesure pas pourquoi il n'a pas associé les polices municipales à ce Beauvau de la sécurité, qui fait la troisième force de sécurité intérieure du pays, qui montre son efficacité. Lui-même est un maire qui a montré l'efficacité de sa police municipale. Nous sommes primo-intervenants l'attentat de Nice qui s'est déroulé dans une basilique.
Ce sont des policiers municipaux qui
ont d'ailleurs été décorés de la Légion d'honneur par le Premier ministre.
Ça dit, l'extension des pouvoirs de la police municipale est prévue dans le projet de loi sur la sécurité globale qui est en discussion en ce moment au Parlement.
Alors, elle n'est pas... il y a quelques dispositions dans la sécurité globale et le gouvernement a sorti un livre blanc à la fois sur le séparatisme et sur la sécurité en général, où il y a tout. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi, alors qu'il y a tout, le gouvernement dit oui, mais tout ce que nous ne mettons pas aujourd'hui, nous le mettrons dans une grande loi en 2022, comme la reconnaissance faciale, l'accès total et direct aux informations des fichiers pour les maires, la constatation par la police municipale des délits comme les rodéos urbains, le refus d'obtempérer, permettre la fermeture d'établissements à titre conservatoire en cas de récidive.
Donc
pourquoi 2022, alors qu'on a deux textes de loi et un Beauvau de la sécurité qui permettrait aujourd'hui de prendre tout de suite ces décisions?
Ce texte de loi sur le séparatisme, qui est aussi en discussion en ce moment à l'Assemblée, il a été écrit pour lutter contre cette menace terroriste et les dérives de l'islamisme. Vous êtes satisfait par ce texte ou pas? C'est un bon texte?
Bon, d'abord, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, après 5 ans de socialisme, après 3 premières années où il y avait d'autres dispositions à prendre, avec le Covid, avec les crises que nous connaissons, que le président de la République et le gouvernement s'engagent dans un texte sur la sécurité globale. Sur le séparatisme, je considère que c'est quelque part quelque chose de courageux. Je regrette simplement que nous n'allions pas au bout de certaines dispositions. Mais il y a des choses intéressantes dans ce texte contre le séparatisme. Désormais, nous avons un délit d'entrave à la fonction d'enseignant, alors que, regardez, cet enseignant de trappe qui est menacé aujourd'hui, qui vient d'être voté. Je salue le Parlement de l'avoir fait. Il appartient désormais aux magistrats d'être beaucoup plus fermes pour appliquer ces dispositions. Le président de la République a dénoncé lui-même le premier l'islamo-fascisme, dont fait partie de ceux qui le dénoncent en rappelant sans cesse depuis 5 ans qu'il y a une cinquième colonne qui avance de manière rampante dans notre pays.
Est-ce que vous, par exemple, vous connaissez dans votre ville de Nice des mosquées ou des lieux de prière radicalisés qui ont pignon sur rue?
Oui. J'ai même des procédures en cours et j'espère que ce texte contiendra suffisamment d'éléments pour les faire fermer. Ils sont signalés, ils sont identifiés dans des enquêtes policières et judiciaires. Aujourd'hui a été adopté le contrat d'engagement républicain par le Parlement, dont je me réjouis puisqu'il s'inspire de ce que j'ai fait il y a 6 ans. À Nice, où j'ai imposé à 1500 associations de signer un engagement à ce que, dès lors qu'ils se feraient surprendre à avoir un acte d'un de leurs adhérents qui ne respecte pas ces valeurs, leurs subventions et les lieux d'exercice de leur activité, que ce soit dans le sport ou la culture, qui sont mis à leur disposition, leur soient supprimés. Eh bien, ce contrat d'engagement républicain dans la loi en reprend l'exemple et je m'en réjouis.
Christian Estrosi, dans un peu plus d'un an, ce sera la présidentielle. Au mois de septembre, vous souhaitiez que votre famille politique, LR, les Républicains, se tourne vers Emmanuel Macron pour la présidentielle en échange d'un contrat d'idées. À choisir entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, qui est le meilleur candidat pour vous?
Je pense que les Français ne sont pas du tout dans les élections présidentielles.
Et les politiques, si.
Oui, mais moi, je fais peut-être plus partie des Français que des politiciens.
Je vois
l'inquiétude, je vois les personnes âgées en situation d'isolement aujourd'hui, qui sont dans un état psychologique avancé difficile, les étudiants, c'est la responsabilité des hommes politiques. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise, c'est de s'occuper de ça,
et c'est aussi
c'est
de
pas
dire
de s'occuper de soi, de ses ambitions personnelles.
Vous avez raison. Pour les régionales, vous serez les Républicains ou la République en marche dans votre région?
Ça, c'est demain. Bon, d'abord, je suis naturellement adhérent de ma famille historique parce que je suis gaulliste et que avoir un geste est toujours interprété. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je veux me montrer un partenaire constructif avec le gouvernement, que j'ai ma propre petite formation politique, la France audacieuse, c'est-à-dire celle des territoires, celle où avec plus de 300 maires de France, aujourd'hui nous montrons que la sécurité, que la santé, elles sont mieux gérées, que de se défaire d'un certain nombre de responsabilités, l'État se rendrait plus fort en nous faisant confiance et en nous permettant d'exercer des responsabilités qu'il est incapable d'assumer lui-même.
Christian Estrosi, apôtre de la décentralisation, était avec nous ce soir dans RTL Soir. Merci à vous d'être venu, Christian Estrosi.
Merci.
À suivre, l'œil de Natacha Polony. Natacha qui n'a pas seulement un œil, mais aussi une plume et qui s'interroge dans un livre. Sommes-nous encore en démocratie ? C'est à suivre.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et à la une ce soir, le principal syndicat de médecins scolaires qui réclame la fermeture des écoles, collèges et lycées, et ce pour 4 semaines. Le nouveau protocole, disent-ils, est trop lourd à mettre en place. Depuis ce matin, dès lors qu'un cas de variant est détecté, c'est toute la classe, on le rappelle, qui ferme. Sur RTL, Christian Estrosi lui annonce ce soir qu'il va saisir le Conseil d'État après le rejet de son arrêté interdisant les locations saisonnières. La situation à Nice, dit-il, est critique, les hôpitaux saturés et le nombre de décès en augmentation. Et puis le plan grand froid déclenché dans le Nord et le Pas-de-Calais. On attend jusqu'à moins 8 degrés à Lille, moins 15 en température ressentie. En Bretagne, c'est la neige qui inquiète ce soir. Par mesure de précaution, les transports scolaires seront suspendus demain.
Et oui, Louis Baudin, ça s'appelle l'hiver sérieux, l'hiver velu, l'hiver tatoué.
Oui, c'est vrai, on n'en a pas eu comme ça depuis 2-3 ans. Et c'est vrai que là, on a un véritable hiver et ça va se voir encore demain. Alors avec d'abord cet épisode de neige qui va commencer demain matin sur la Bretagne, qui couvrira l'ensemble de la Bretagne d'ici la soirée, donc ça va venir entre 10 voire 15 cm de neige hein, sur toute la Bretagne. Puis ensuite, cet épisode en cours d'après-midi arrivera sur la Normandie, le Val-de-Loire, l'Île-de-France, ça sera pour la soirée, la nuit suivante, avec là aussi peut-être quelques centimètres, tout comme sur la Bourgogne. Pendant ce temps-là, dans la moitié sud, la même perturbation donnera de la pluie en plaine, mais de la neige également en montagne. Il n'y a que dans l'extrême nord où on restera un peu à l'écart de cette perturbation, où là en revanche, il fera très froid, avec effectivement des températures qui descendront jusqu'à moins 8, moins 10 degrés peut-être, notamment en température ressentie. Puis l'après-midi, pas plus de 0 à 3 degrés dans les régions de la moitié nord. Ça ne dégèlera pas même au nord de la Seine, alors qu'on aura encore 10 à 15 degrés dans la moitié sud.
On se couvre et on couvre les enfants dans le nord. Hein, demain.
Ah oui.
À tout à l'heure. Merci Louis. Elle a un œil, elle a aussi un stylo, elle s'en sert, Natacha Polony, qui publie « Sommes-nous encore en démocratie ?» aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Eh ben, je vois que vous faites dans la nuance, hein. Vous voulez faire un petit tour en Corée du Nord pour avoir une réponse à votre question, si nous sommes encore en démocratie ? Qu'est-ce qui vous arrive ?
Non mais c'est Thomas, première chose, en effet, il n'y a pas le choix qu'entre la dictature et la démocratie. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'est pas en dictature, et évidemment qu'on n'est pas en dictature, que notre démocratie se porte bien, donc on a le droit et on a même le devoir de s'interroger. Parce que la démocratie, ça se définit pas seulement par la liberté d'expression. Oui, j'ai la chance de pouvoir critiquer la démocratie, donc il y a de la liberté d'expression. En revanche, je pense qu'on peut tous constater que ça va pas très très bien.
Comment vous la qualifiez alors, notre démocratie, la démocratie française aujourd'hui ?
Alors, la démocratie française va, je dirais, encore plus mal que les autres démocraties occidentales, parce qu'elle est peut-être un petit peu plus abîmée par tout ce qui fragilise la démocratie aujourd'hui.
Et c'est quoi ?
C'est-à-dire que, en gros, ce qui fragilise globalement la démocratie, c'est le fait que l'économie et donc des pans entiers des réalités humaines échappent au débat démocratique. Depuis qu'on a décidé, à travers ce qu'on peut appeler ce cycle néolibéral qui est apparu à la fin des années 70, que l'économie répondrait à des lois universelles de la nature. Et donc, hop, il n'y a plus rien à discuter. Il n'y a pas d'alternative. C'est ce que disait Margaret Thatcher et qu'a repris Emmanuel Macron quand il est devenu ministre de l'économie.
Emmanuel Macron, là, est-ce que vous lui accordez un brevet de démocrate ou vous émettez des réserves sur lui ?
Alors, Emmanuel Macron est évidemment démocrate dans le sens où il croit à l'idée qu'il faut un régime où les peuples peuvent voter, etc. Mmh. Bien entendu. En revanche, il appartient à ce qu'on peut appeler le centrisme autoritaire, c'est-à-dire cette idée qu'il y a des gens qui savent mieux que les autres ce qui est bon et que donc on peut par des décrets imposer une politique au prétexte que c'est pour le bien des peuples. Et on le voit encore plus avec cette crise sanitaire et avec l'état d'urgence sanitaire. Voilà. Mais ça se voyait déjà avant.
Il y a un de ses alliés, François Bayrou, qui demande ardemment de la proportionnelle. Est-ce qu'il peut compter sur votre soutien? Est-ce que un des problèmes de notre démocratie, et sur lequel on peut s'interroger, c'est pas de ne pas être représentative? Au sens, elle ne représente pas ce que pensent les gens.
Alors, c'est là où la France souffre un petit peu plus que les autres. C'est que la 5e République, qui à un moment donné a été utile pour exprimer la volonté populaire et calmer les crises, aujourd'hui est un facteur de crise, puisqu'elle est totalement figée, elle a été tordue par les différentes révisions constitutionnelles, et donc elle solidifie un pouvoir qui est perçu par une grande partie des citoyens comme n'étant plus tout à fait légitime.
Elle renforce un pouvoir faible, c'est ça ?
C'est-à-dire que vous avez un parti qui fait 14,5% des inscrits au premier tour des législatives et qui a 350 députés, c'est qu'il y a un problème. Mmh. C'est plus tout à fait la démocratie. Donc la proportionnelle pourrait être un des moyens, et il faudrait assumer ce qui en découle, c'est-à-dire la nécessité de faire des compromis. Ce serait pas le seul, parce que la proportionnelle, ça permet de représenter les courants d'idées. Ça permet pas de représenter toutes les classes sociales, parce que le problème, c'est le non-renouvellement des élites. C'est le fait que quand on est tout en bas de l'échelle sociale, eh ben, on ne peut pas accéder à la représentation au pouvoir. Ça nécessite de réparer l'ascenseur social. C'est l'éducation, c'est l'école, c'est du long terme. Et puis, c'est aussi une culture démocratique. C'est que les gens aient en tête que la chose publique, ça leur appartient, et qu'ils puissent se penser à un moment comme faisant partie de ceux qui vont gouverner. Ça, c'est un enjeu. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Sommes-nous encore en démocratie, Natacha? C'est le genre de titre et de petit bouquin qui, à un an de la présidentielle, pourrait ressembler à un petit caillou qu'on pose là. On entend chaque semaine ici, notamment, vos convictions. Il n'y a pas une frustration à un moment au fait d'avoir des idées et de ne pas les voir appliquer?
Forcément, c'est-à-dire qu'on essaye d'agir, on essaye de dire au mieux, on essaye d'alerter. Ce livre fait partie de tout ce qu'on peut faire pour essayer d'aider à penser, d'améliorer le débat démocratique. Il est vrai que si, à un moment donné, les politiques ne prennent pas en compte tout cela et ne comprennent pas qu'il faut un changement radical, ce que j'appelle dans le livre une révolution raisonnable, ça risque de mal tourner et ça m'inquiète profondément.
Alors je vous charrie, et ce sera ma dernière question souvent sur le sujet, mais sérieusement, qu'est-ce qui vous ferait sauter le pas? Qu'est-ce qui vous ferait vous lancer en politique? Qu'est-ce qui vous ferait prendre vos responsabilités?
L'idée que ça pourrait être efficace. C'est-à-dire l'idée que je pourrais disposer des moyens véritables pour être utile. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et je pense que je suis plus utile comme ça.
Merci Natacha Polony. Sommes-nous encore en démocratie? C'est donc signé Natacha Polony. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Lui aussi, il sait écrire en phonétique, mais il sait écrire. Il sera là demain. C'est
Cavrivière, bien sûr.
Il a 50 ans aujourd'hui, donc on l'embrasse.
Bon anniversaire.
Voilà, bon anniversaire, monsieur Cavrivière, et à demain. Vous aimez Nicoletta, Natacha Polony, ou pas?
Mais oui. Oui, j'aime Nicoletta.
Et bah restez avec nous parce qu'elle arrive, Nicoletta. Elle sort un très joli livre en texte et en images. Elle est l'invitée d'RTL ce soir tout de suite. Vous avez une chanson de Nicoletta là comme ça ou pas?
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, deux planches de bois, un paradis de bidonville qui s'appelle Favela.
Incollable, à tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
Elle a tout connu, elle les a tous connus et fait chanter. Aujourd'hui, elle se raconte dans un livre, un très beau livre rempli de belles photos et de beaux souvenirs. Soul Sister, 50 ans de scène aux éditions du Cherche Midi. Elle, c'est Nicoletta, invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous.
Bonsoir,
Nicoletta.
Merci.
Je voudrais une impression pour commencer, la vôtre, sur notre époque, sur ce qu'est la vie en 2021.
Eh bien, malheureusement, on est en train de perdre un certain monde.
Ouais.
Le monde change, véritablement. Je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques temps, la renaissance que nous serons obligés de faire,
ouais.
Parce qu'il va y avoir des dégâts, il y en a déjà, et c'est pas facile de se reconstruire, hein, c'est comme une guerre.
Vous êtes plutôt inquiète, vous, en ce moment?
je suis inquiète parce que nous, les artistes, nous sommes frustrés. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as une frustration qui dure quand même depuis presque un an, où je dis avec beaucoup d'humour, mon gosier est en jachère. L'humour ne peut pas nous sauver de tout. Mais c'est vrai que j'ai quand même un peu de soucis. Pas que pour moi, pour les gens, pour tout le monde, pour le quotidien. Et c'est vrai que j'espère qu'on tirera profit de retrouver des valeurs de partage et de compréhension et d'entente mutuelle, et puis d'observer la nature, parce que ça nous rassure. Et voilà, on essaie de trouver des remèdes qui sont normaux et satisfaisants, hein, qui sont simples.
On ne va pas laisser votre gosier en jachère, oui. Heureusement, il y a ça. C'est votre passeport intergénérationnel, c'est un tube pour vous en 67, un tube aussi pour les élèves de la Starac, hein, qu'il avait reprise en hymne.
Beaucoup de bonheur à ses enfants.
Elle vient d'où cette chanson ?
Pardon ?
Elle vient d'où cette chanson ?
Elle vient d'Amérique, ça n'a jamais été un gros succès, on l'a trouvée chez un éditeur qui l'a représentée en France pour les droits français. Et comme ça s'appelait Angélique, ou My Angélique, on a fait sonner pour moi la musique. Mademoiselle Anne Grégory qui a fait le texte, c'était une copine.
Et
c'était un peu ma carte de visite.
Ouais, c'est ça.
Voilà. J'étais DJ, je mettais les disques dans une discothèque, je travaillais grâce à la musique, je vivais grâce à la musique pour payer mes petits hôtels à Saint-Germain-des-Prés. Donc c'était un peu moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, etc. C'était mon espoir, quoi, de vivre grâce à la musique.
On est en 67, face A, la musique, face B, il est mort le soleil.
Il est mort. Il est mort le soleil.
Et alors là, il y a un concert de jazz à Montréal d'un monsieur qui s'appelle Ray Charles.
J'avais les mêmes agents que Ray Charles, les frères La Traverse. Et comme je l'adore depuis que j'avais 15-16 ans, j'étais folle de la musique américaine, adolescente. J'ai voulu absolument aller voir son spectacle, on m'y emmenait. Et on s'est très bien entendu parce qu'il aimait beaucoup Monsieur Barclay, qui était mon producteur.
Ah,
c'est une enfant Barclay, ok. Il nous a reçus avec mon directeur artistique et on a pu dîner avec lui après son spectacle au quartier chinois de Montréal. C'est un homme affable, merveilleusement attachant, amusant, qui aimait la vie, qui aimait les gens, il était magnifique. Et il m'a demandé mon adresse, mon téléphone, avec son petit calepin de braille. Ça m'avait beaucoup ému. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu dans la nuit un coup de fil. Je lui ai laissé mon album qu'il voulait. Et qu'est-ce qu'il avait repéré ? Il ne parlait pourtant pas français sur cet album. C'est mon premier album, Il est mort, le soleil.
Et ça a donné ça.
The sun died. The sun died with my love.
C'est
le même texte, hein, à peu près.
Ce qui est formidable avec vous, Nicoletta, c'est que chacune de vos chansons est un peu un doudou pour nous tous. Elles nous ont accompagnés, on a parfois grandi avec. On les écoute pour s'offrir un shoot de plaisir ou de nostalgie comme celle-là. Tiens.
C'est le même compositeur, M. Hubert Giraud. Il m'a composé L'amour, le soleil. Moi, on n'est plus là aujourd'hui, mais c'est un grand compositeur. Il était. Il a commencé musicien de Django Reinhardt, vous vous rendez compte ? Quand il était très jeune.
C'est
ensuite,
là qu'on voit
il a travaillé.
Quelle lignée vous êtes quand même. Hein.
Et un homme extraordinaire. Sa dernière belle composition, c'est Parlez-moi de lui. Pour Nicole, mon ami Nicole Croisé, qui a repris La petite Chimène Badi. Il avait un talent fou, cet homme.
Alors, Mamie Blue, vous en parlez dans ce livre.
Bien sûr.
Nicoletta Soul Sister. Alors, Soul Sister, on précise, c'est Ray Charles qui avait dit que vous étiez une Soul Sister. Il dit que vous étiez la seule blanche avec une voix de chanteuse.
Oui, enfin, Soul Sister, c'est surtout le fait que quand on fait partie de la famille du gospel, c'est. Comment dirais-je, c'est un milieu où la soul music a énormément d'importance parce que le gospel est la mère de la soul music. Et donc, quand les chanteurs de gospel se rencontrent, il y a une espèce de filiation du « Hey brother, hey sister ». On se sent très proche les uns des autres parce que le gospel, c'est un partage vocal. On va tous dans le même sens. Et donc, c'est une culture très fervente puisqu'elle vient de la Bible, elle vient du Nouveau Testament. Et tous les textes sont pris dans le Nouvel Évangile. Et on s'adresse au Seigneur, au « My Lord », au « My Jesus », mais pas à Dieu. Dans le négo spirituel, on parle à Dieu. Là, on passe par la voix vivante. De Dieu fait homme. C'est très poli, je trouve.
C'est très
mignon.
Absolument. Bon, revenons à Mamie Blue, si vous voulez bien. Ce que vous racontez dans le livre, avec cette chanson, cette tentative de suicide que vous avez faite après la disparition de votre maman, atteinte de déficience mentale. Je vais pas vous demander de re-raconter tout ça, mais
ça va aller,
avec le recul, j'imagine que vous n'avez pas regretté d'avoir vécu.
Nicoletta.
Vous savez, l'important, c'est de reprendre la route avec espoir et de ressortir grandi de ces épreuves. Je pense, avec le temps, je l'ai compris, que tout à chacun, nous avons un destin difficile parfois à vivre. Et la vie, maintenant que je suis une vraie adulte, j'aime le dire, elle est parfois une chienne.
Ouais.
Et elle mord tout le monde. Nous passons tous par les mêmes deuils, les mêmes épreuves, perdre des gens qu'on aime, nos parents, nous. Et c'est, bon, c'est difficile parfois de survivre à nos chagrins, mais la vie est belle, c'est une grâce, c'est magnifique quand on a, on connaît des gens qui se battent dans tous les hôpitaux pour la conserver, faut jamais l'oublier. Moi j'ai fait une tentative de suicide parce que j'ai appris la mort de ma maman brusquement, brutalement, par un télégramme, et ça m'a vraiment fait du mal, et je me souviens m'être tapé la tête contre le mur pour oublier la douleur que j'ai au fond de ma poitrine, tellement j'ai eu mal. Mais j'ai voulu la rejoindre, c'était pas tout à fait un suicide, c'était je vais dormir pour toujours, parce que j'avais un sentiment de culpabilité. Quand on perd sa mère à 18 ans, on se sent pas très réjouissé, parce qu'on se dit j'ai pas eu le temps de lui dire je l'aimais, mais m'en suis pas assez occupé. Mon Dieu, j'étais pas là quand elle est partie. Et tous les enfants qui ont vécu ça comme moi le savent. On a des gros regrets. Donc voilà, j'ai été jusqu'au bout. Et comme je m'en suis sorti après un mois d'hôpital et 8 jours de coma, eh bien, j'ai eu le temps de réfléchir, vous savez. Et c'était comme une seconde naissance. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est ça. Et je me suis pris par la main.
C'est pas bête, c'est sincère.
Et j'ai dit, puisque je suis là, je vais tracer mon destin et un ou deux la vie et je vais la réussir.
Et du coup,
ça m'a donné cette espèce de descente aux enfers. Me supprimer. Et j'ai fait comme une expérience de mort rapprochée. Avec,
vous avez vu la lumière,
mon regard au plafond, mon corps, je me voyais, les infirmiers qui ramenaient mon corps dans un lit, en train de m'entuber. Et je voyais toute cette scène, c'était incroyable, plus le tunnel avec une lumière spécifique. Et puis je me suis réveillé un jour, j'ai cru que j'avais un accident, j'avais plus de mémoire, parce que quand on a fait un coma, la mémoire revient petit à petit. Hein. Et je m'en suis sorti. Donc si c'était pas mon heure,
parce que j'ai plein de questions à vous poser.
Ça voulait dire que
encore,
je vais être là ce soir avec vous.
Et ben voilà, c'est voilà. Pour ça. Toute la raison se trouve ici. Mais il y a cette chanson aussi. Moi, c'est une de mes préférées avec Bernard Lavilliers dans les
Idées
Noires. Voilà quelques notes. Quand j'étais gamin, vous me faisiez un peu peur. Vous m'impressionniez. Je me disais, elle doit pas être commode, celle-là. Hein.
Pourquoi?
Parce que je suis toute joyeuse.
Parce que j'ai une foi forte.
Je sais pas, peut-être. Oui. Ça doit être ça.
Non, parce que je sais ce que je veux.
Ouais.
Et c'est vrai que quand on s'impose par sa propre volonté, ça peut effrayer certaines personnes. Je comprends.
Un petit mot de Johnny Hallyday quand même. Ma chérie, ma chère Nicole, surtout, continue de chanter pour notre joie à tous. Tu chantes si bien, je t'aime, ton ami.
Ah ouais, moi, il m'a donné beaucoup de joie, Johnny. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a tendu la main. Il m'a fait faire ma première grande tournée. Je suis partie en première partie de sa grande tournée pendant quelques temps. Quand j'arrivais dans les stades,
j'ai
ce souvenir de clameurs de gens qui gueulaient Johnny, ouais. Johnny, et c'était à moi de chanter. Mais je peux vous dire que j'attrapais le micro et je faisais pas semblant de chanter. Et tous les soirs, je regardais Johnny, qui était un exemple, un atelier extraordinaire pour une jeune débutante. Il connaissait bien son travail, il aimait le public, il se donnait jusqu'au bout.
Donc,
il était merveilleux.
Nicoletta, vous avez jamais flirté avec Johnny?
Pardon?
Vous avez jamais flirté avec Johnny?
Non,
rien.
Non, il était avec Sylvie, j'adore Sylvie.
Bon,
non.
D'accord.
Non, je vais vous dire une chose. Les chanteuses sont beaucoup plus sages, entre guillemets, que les chanteurs.
Faut être deux pour être
on
pas sage.
Hein. On se permet pas certaines choses parce que on est au vu de tout le monde. On était 52 dans cette tournée. Si je commence à aller faire du flirt avec un ou avec l'autre, j'ai l'air de quoi?
Vous avez l'air d'une très grande artiste, que j'étais très heureux de recevoir.
Je ne connais pas de chanteuse qui ramène un minou dans son lit après le spectacle. Par contre, je ne vous donnerai pas de nom, je connais beaucoup de chanteurs qui ramènent des petites copines dans leur chambre après le concert.
Vous êtes sûr que vous n'avez pas de nom?
Ah non, je n'en ai pas les noms.
D'accord.
Non.
Bon, merci en tout cas d'être venu nous voir. 4 au 7 novembre au Lido, le 12 juillet au Francofolies à La Rochelle, si tout va bien, on l'espère. Un prochain album bientôt ou pas? Le dernier, c'est 2013.
Je vais faire pour le moment une captation au Lido, bien sûr, pour mon public, et avec un nouveau récital, toutes mes anciennes chansons et des nouvelles. Et puis, je cherche des nouvelles chansons, ce n'est pas facile.
Ça n'est pas facile.
Ce n'est pas facile.
En attendant, lisez 50 ans de scène, Nicoletta Soul Sister, aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment d'être venu nous voir, Nicoletta.
Je vous remercie.
On met quelques notes de musique, peut-être. Voilà. La musique pour annoncer Louis Baudin. On aurait mieux fait de mettre Il est mort le soleil. Oui.